verra l'aspersion.
Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur. Et il sera pur. Qu'est-ce que David a dit ? Lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Il est en train de penser à cette cérémonie. Qu'est-ce que nous sommes censés apprendre de là ? Quelle est la signification ? Qu'est-ce que ça nous raconte sur l'œuvre de Jésus pour nous, pour vous ? Alors les cendres, c'est quoi ? Les cendres, c'est ce qui reste lorsque un feu a brûlé et a complètement brûlé quelque chose. Et le feu a tellement tout brûlé qu'il n'y a que des cendres qui restent. Les cendres sont donc le signe d'un jugement qui est tombé et qui a été complet. Tout ce qu'il fallait détruire était détruit. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant contre le péché, contre vos péchés. Mais ce feu est tombé sur le Fils de Dieu à la croix du calvaire, n'est-ce pas ? Nous le savons. Et là, sur cette croix, le Christ a supporté et vécu et subi tout le feu de Dieu, ce feu divin infiniment fâché contre le péché. Il est complètement écrasé. Le jugement, on finit avec lui, le substitut. Et pour ainsi dire, il n'y a rien qui reste à juger parce que le jugement de Dieu est allé jusqu'aux cendres sur le Fils de Dieu. Le jugement pour tes péchés, tous tes péchés, est allé jusqu'au bout. Et tout ce que Dieu exigeait, et tout ce que Dieu demandait, et tout ce qui constituait et provoquait son irritation divine et très sainte, a été dépensé et épuisé et fini à la croix. Nous remarquons dans le verset que David dit à Dieu, « Purifie-moi et je serai pur. » Il y a le « toi » et le « moi ».« Purifie-moi et je serai pur. » »« Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » David veut une œuvre divine. Toi, tu le fais, et je serai tout simplement le récipient. N'est-ce pas ? Et notre pardon est glorieux, inimaginable, parce que c'est l'œuvre du Fils de Dieu qui se fait l'agneau de Dieu et dont les cendres nous montrent la gloire et la perfection de cette œuvre. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Il était blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures, par ses cendres, par ses meurtrissures, jusqu'au bout, que nous sommes guéris, guéris à la mesure de l'œuvre de Christ. On n'a pas encore touché le point principal encore, mais on est en train de planer tout près. Troisième point, un pardon glorieux, nous avons un pardon glorieux, car ce pardon nous rend plus blancs que la neige. Lisez le verset 9 encore avec moi, juste la dernière partie. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Je ne sais pas si vous l'avez jamais fait, mais j'ai vécu plusieurs années à Grenoble où il y a beaucoup de neige, beaucoup de montagnes, beaucoup de neige. Et parfois, quand je suis allé dans ces stations de ski, faire du toboggan avec les enfants ou quoi, j'ai pris un moment et j'ai regardé cette neige. Et je pensais à ce verset. Lave-moi, même moi, et je serai vraiment plus blanc que la neige. Mais oh Dieu, qu'est-ce qui pourrait être plus blanc que ça? Ces chaises sont grises à côté de la neige, n'est-ce pas? J'ai envie de dire que même le blanc de vos yeux, c'est du noir. N'est-ce pas? La neige, plus blanc que la neige. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, chers amis, que la puissance du sang de Jésus et son œuvre est tellement vaste et grande que quand vous êtes lavé de son sang, vous êtes plus juste aux yeux de Dieu que si vous n'aviez jamais péché et si vous aviez toujours obéi. J'ai dit ça récemment et un jeune homme qui avait étudié la théologie dans notre église, il m'a fait cette mine là, où tu sais que, montre-moi le texte, prouve-moi cela. Je vous dis, chers amis, qu'il est devenu péché afin que nous devenions la justice de Dieu. Et que Christ ne nous ramène pas simplement au niveau d'Adam avant la chute. Il ne nous restaure pas simplement à ce qu'un homme purement humain aurait pu nous donner s'il n'avait pas obéi, s'il n'avait pas désobéi. Le Christ, mystérieusement, nous donne un statut devant Dieu qui est plus blanc que la neige. Ce n'est pas étonnant que les chrétiens de l'Afrique de l'Est se rassemblaient en foule en dehors de l'église et chantaient ce chant que je n'arrivais pas à prononcer. N'est-ce pas? Vous et moi, vous êtes récipients d'un pardon ô combien glorieux. Mais le dernier point où j'avais hâte de venir ce matin, c'était que le pardon que nous avons est un pardon glorieux, car Dieu lui-même nous révèle et certifie sa valeur. Alors, regardez le verset 10. Après avoir prié, purifie-moi, je serai pur, David dit, annonce-moi, il demande à Dieu une chose étonnante, annonce-moi la félicité et la joie. Rappelons-nous, quand est-ce qu'il écrit ce psaume? Quand il a commis l'adultère avec Bathsheba et il a organisé le meurtre de son mari. D'accord? Dieu le reprend quelques mois après par Nathan et il est brisé. Il voit enfin le Seigneur remporte la victoire sur lui et il devient brisé. Et il dit, oh Dieu, pardonne-moi. Et il étale ça, il étale son péché devant le monde entier en écrivant le psaume 51. Il enlève le 3, il est transparent avec Dieu, il fait tomber les murs, il est transparent avec nous tous, et il nous dit tout ce qu'il a fait. Et il dit, oh Dieu, pardonne-moi. Et puis il dit cette phrase dans le verset 10. Annonce-moi. Moi qui ai fait tant de péchés, annonce-moi la félicité et la joie. C'est-à-dire, révèle-moi que toi-même, tu es complètement satisfait avec le sacrifice. Révèle-moi à quel point maintenant tu es dans la joie avec moi tel que je suis, non pas à cause de moi, mais à cause de ta grâce. Dieu seul peut nous révéler s'il est vraiment satisfait avec ce que Jésus a fait pour vos péchés, n'est-ce pas? Seulement Dieu peut vous indiquer et vous montrer à quel point la mort de Jésus est pleine de valeur pour vous effacer vos péchés. Vous savez que le problème que nous avons, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, des ténèbres tombent sur le monde pendant quelques heures, n'est-ce pas? C'est une éclipse miraculeuse. Et tout le monde est effrayé et tout le monde fuit. Et le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, éternel, infini et immuable, mais maintenant aussi homme, est courbé devant le Père, brisé pour nos iniquités. Devant lui, suspendu entre ciel et terre, il y a une transaction qui se passe. Et Dieu déverse son colère sur le Fils. Et le Fils rend une obéissance inimaginable. C'est pas juste qu'il est là et qu'il descend pas. C'est que dans son cœur, il est en train de justifier Dieu. Volontairement de dire, oui, ta sentence est juste, tu seras juste quand tu prononces ta sentence, et sans reproche quand tu juges. Et avec une piété incroyable, il encaisse avec amour, en donnant raison à Dieu. Et en tout cas, il faut que j'arrête de dire plus, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que nous ne pouvons pas savoir tout ce qui se passe en ces quelques heures. Nous ne savons pas, parce que ce n'est pas, tout n'est pas révélé, parce que nous ne pouvons pas comprendre la valeur de ce que le Fils a rendu au Père. Même les anges sont comme au bord d'un océan quand ils essaient de comprendre. Heureusement, Dieu nous a révélé autant que possible à quel point il est. Cette œuvre de Christ pour vous est grande, c'est lui qui l'a commandé, c'est le Père qui lui a commandé de faire une œuvre si complète. Et il nous a annoncé l'allégresse et la joie. D'accord ? Vous, vous devez le croire tout simplement parce que vous n'allez pas sentir. Vous ne pouvez pas en vous-même voir et percevoir combien cette œuvre de Christ est grande. Vous n'allez jamais entrer avec vos sentiments dans la plénitude de cette affaire. Ça doit être une révélation. Annonce-moi. Parce que c'est au-dessus. Et comment est-ce que Dieu nous révèle combien il est heureux maintenant avec l'œuvre de Christ, et heureux avec vous, tellement vous êtes lavés. Heureux avec vous. Eh bien, c'est Hébreux 13 et verset 20 qui nous le dit. Oh oui, Dieu. Ouais. Je vois que j'ai sauté des choses, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur n'a pas voulu que je dise cela. J'ai déjà trop dit probablement. Et lisez avec moi ce verset. Que le Dieu de paix, c'est-à-dire le Dieu qui a été complètement apaisé envers vous, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, voilà la partie importante. Comment est-ce que le Père a ressuscité Jésus? Il a ramené d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus est là, condamné et puni à la croix? Parce que dans la volonté de Dieu, il a pris notre place. Il est identifié avec vous. Il a votre nom sur sa poitrine. Il a vos péchés sur ses épaules. C'est pour ça qu'il est à la croix, qu'il est dans la place du condamné. C'est pour ça qu'il est dans le tombeau, car le salaire de vos péchés, c'est la mort. Mais attendez, trois jours plus tard, il n'est plus du tout dans la place du condamné. Il est dans la place de l'exalté. Il est ressuscité. Il est glorifié. C'est un peu comme le fils prodigue à qui on dit « Donne-lui la meilleure robe, donne-lui la bague, donne-lui les sandales. » Et maintenant, Jésus est le fils exalté. Mais comment est-ce qu'il a pu passer de là à là? C'est simplement parce que vos péchés ont été complètement enlevés de lui. Si Jésus est libéré de la croix et du tombeau, c'est qu'il a pu se libérer de votre culpabilité et donc vous libérer. Mais à quel point est-ce qu'il vous a libéré? Regardez-le, ressuscité, vous verrez. Quand je regarde Jésus à la croix, je vois dans sa punition terrible la mesure de mon culpabilité, ma culpabilité. Quand je regarde Jésus ressuscité, je regarde la grandeur de ma justification. Vous n'arrivez pas à croire. Il a ramené à la vie par le sang. C'est-à-dire le sang a une telle valeur que le sang de Jésus a pris le plus coupable de tous les hommes de tous les temps, c'est Jésus. Parce qu'il avait sur lui non pas les péchés d'un homme, mais les péchés de tous les élus. Et son sang était tellement puissant qu'il a pu prendre cet homme le plus coupable et faire de lui l'homme ressuscité, accepté. Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses, dit Romains 4, est ressuscité à cause de notre justification. C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est glorieux, la puissance. Nous voyons pourquoi ces chrétiens de l'Afrique de l'Est chantaient et chantaient. Parce qu'ils croyaient ce que je vous disais. Ils utilisaient ce verset beaucoup. Ils cessaient de regarder leur péché, leur justice de soi, et regardaient combien Christ est puissant pour relever le pécheur. Et les os que tu as brisés se réjouiront. C'est la dernière phrase du verset 10. Et les os que tu as brisés se réjouiront. David est en train de dire, si tu me révèles à quel point tu es content avec moi maintenant, tellement je suis lavé, alors je vais être dans la joie. Les os que tu as brisés se réjouiront. Ça indique quelque chose de très important. Quand vous péchez pour la millième fois sur ce même truc, et vous êtes obligé de prendre la place du pécheur encore, la volonté de Dieu, c'est que vous arriviez là, au pied de sa croix, sans excuse, en vous détournant du péché, la volonté de Dieu, c'est que vous arriviez à la joie. Et rien de moins. Quand nous n'arrivons pas à la joie, il y a un problème. Nous ne voyons pas la grandeur de l'œuvre de Christ. Nous sommes en train de mépriser son œuvre. Nous sommes en train de dire là où le péché abondait, la grâce de Dieu n'a pas pu surabonder. C'est ce que nous disons. Quelle folie! Quelle manière de t'exalter! Je me souviens le jour, j'étais dans le pays de Togo, à Lomé, dans une conférence, j'avais péché dans mes pensées d'une manière horrible. Et j'étais dans une conférence, on était entre séances, j'étais dans ma chambre, j'étais professeur de maths à l'époque, et je me souviens que Dieu m'a dit, pas par une voix audible, c'est juste parce que j'étais pendant des heures au fond de ma culpabilité. Et Dieu m'a dit ceci. Tu penses que tu es tellement grand, n'est-ce pas? Que ton péché est tellement important, tellement dominant, que ça peut changer, dominer ta vie. Et le Seigneur m'a dit tout simplement, tu penses que tu es trop grand. Si tu savais qui je suis et quelle est l'immense grandeur de ma grâce qui engloutit ton péché comme un rien, tu ne serais pas en train de me mépriser en restant dans le fond de ta culpabilité. Comme si mon pardon et moi-même, je suis petit. Roy Hessin donne l'exemple d'un homme dans une conférence. Des gens affectés par ce réveil qui, à un moment donné, il a confessé qu'il avait, il comprenait le besoin de prendre la place du pécheur, d'être brisé, d'être honnête avec les autres, hein, d'être un pécheur devant Dieu, mais aussi devant les autres. Et il a confessé un péché qu'il avait commis quelques années auparavant, mais un péché scandaleux. Tout le monde a retenu le souffle un peu, parce que cet homme était un homme mûr, un homme peut-être un laïc dans l'Église qui est un leader. Et il a dit, oui, c'est fini depuis des années ça, mais le Seigneur me donnait le fardeau vraiment que je devais être clean à ce sujet parce que je n'ai jamais dit à personne. Et je vivais un peu dans un prétexte. Personne ne savait qui j'étais, ce que j'avais fait. Donc il a confessé ça à un groupe restreint d'hommes. Et Roy Hessian est parti de ce moment, il a dit à William Nagonda. William Nagonda était un des hommes les plus importants du réveil de l'Afrique de l'Est. Il venait d'Ouganda, un homme absolument remarquable. Et Roy Hessian dit à William Nagonda, quelle victoire pour cet homme qu'il a pu confesser ça. Et William Nagonda avait très souvent des réponses complètement inattendues parce qu'il était très profond spirituellement. Et il a dit, dans sa voix très calme et douce, il a dit, mais je ne crois pas, Roy. Je ne crois pas que ce soit une grande victoire. Je ne crois pas qu'il n'a pas encore eu la victoire. Parce que regarde-le, il est tout abattu. Morose, d'avoir dû confesser ça à tout le monde, il se sent vraiment mal. Il a dit, il est en train de regretter sa bonne justice de bon chrétien perdu. Jusqu'ici, on pensait qu'il était l'homme exceptionnel et maintenant il doit perdre ça et n'avoir que la justice de Christ. Et William Nagonda dit que je pense qu'il n'a pas encore pris vraiment la place du pécheur pour nous rencontrer là, à la croix, nous qui n'avons rien, nous qui sommes capables de tout. Il n'était pas arrivé à la joie. Donc l'œuvre n'était pas encore achevée. Est-ce que vous arrivez à la joie? Est-ce que vous arrivez à abandonner votre justice chrétienne que vous avez perdue et vous dites de toute façon, elle n'était pas vraie. Ma justice n'est que celle de Christ. Et oh, quelle justice! Plus blanc que la neige. Et par cette justice, non seulement une affaire légale est réglée, mais les chrétiens, et je finis avec ça, les chrétiens de l'Afrique de l'Est comprenaient que le pardon, quand vous pardonnez à quelqu'un, c'est afin de l'embrasser, n'est-ce pas? C'est afin de l'aimer, de se réconcilier. Et c'est ça qui les réjouissait. Ce n'était pas un pardon légal, oui, je suis pardonné. Mais Steve, si tu peux juste revenir en arrière, un diapo, je crois. Non, oui, vas-y encore. Là. Regardez ce que le pardon débouche sur cela toujours. Israël, revient à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apporte avec vous des paroles, dis-le, dis ce que tu as fait, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Reçois-nous comme le Père du Fils prodigue, favorablement. Des baisers, n'est-ce pas? Et Dieu dit, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. C'est là ta position. Parce que la puissance du sang du Fils de Dieu pour toi est tellement grande. Et la grâce et l'amour sont tellement immenses. Que Dieu nous aide vraiment à pénétrer de plus en plus dans la merveille de la grâce de Dieu. Je prie. Oui. Oui, Seigneur, nous disons au sujet de nos péchés, purifie-nous, Seigneur, et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Ô béni sois-tu, notre Dieu, que tu nous reçois favorablement. Nous, qui avons tellement péché, reçu tellement favorablement, comme le Fils prodigue, comblé de dons, comblé d'embrasses par toi, reçu dans la vie éternelle, pour toujours dans ta présence aimante. Pardonne-nous, Seigneur, combien de fois nous avons mal compris et mal cru ton pardon. Nous n'avons pas saisi, nous n'avons pas accepté ta révélation de sa valeur. Et nous prions, aide-nous à être maintenant d'accord avec toi sur la valeur du sang de Jésus et exalter, mais franchement, oh Dieu, exalter sa valeur en nous réjouissant complètement dans ton pardon qui ne laisse rien à faire.